était parti de Saba dans le sud de la Libye avec 28 femmes, un bébé et 82 hommes, en plus de 7 membres d'équipage en direction de Tripoli. Mais les pirates ont obligé le pilote à poursuivre environ 350 km plus au nord jusqu'à Malte. Ce soir donc, tous les passagers ont été libérés et les pirates entre les mains des autorités maltaises.
VOA Afrique en direct de Washington.
Fin de cavale pour l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier de Berlin. Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, a été abattu lors d'un contrôle de police dans la nuit à Milan. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les médias italiens, une information confirmée par le ministre italien de l'Intérieur. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a publié ce vendredi une lettre de Vladimir Poutine qui souhaite restaurer une bonne coopération russo-américaine et la porter à un nouveau niveau qualitatif. Il s'agit d'une brève lettre de vœux pour Noël et la nouvelle année. Le futur président américain a signalé à de multiples reprises sa volonté d'œuvrer à un réchauffement des relations avec Vladimir Poutine, dont il loue les qualités de leader. Dans sa conférence de presse de fin d'année, le président russe s'est largement concentré sur les thèmes économiques et pour cause, la Russie peine à se remettre de deux mauvaises années du secteur pétrolier et de sanctions internationales liées à l'annexion de la Crimée et le conflit en Ukraine. Au plan international, M. Poutine a salué le succès de l'opération menée en Syrie en soutien aux forces de Bachar al-Assad. Il a appelé à un cessez-le-feu dans toute la Syrie et annoncé des pourparlers prochains au Kazakhstan entre l'Iran, la Syrie et la Turquie. Nouvelles du monde. Washington, Chérubin Gabi Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. John Lyndon à la présentation, George Léonard Sagno à la mise en onde assistée de Fred. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique que vous écoutez l'Amérique et vous. À quelques semaines de la fin de son mandat, Barack Obama fait son bilan. Interrogé sur Fox News, le président américain a jugé que sa pire erreur à la tête des États-Unis avait probablement été le manque de suivi après l'intervention militaire en Libye en 2011, qui a conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi et puis à sa mort le 20 octobre 2011. Que vous inspirent ces propos du président américain et comment voyez-vous ce qui se passe en Libye aujourd'hui? Des questions et bien d'autres que vous et moi nous posons. Évidemment, nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 61 93 14 0. Écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique et bien sûr pour nous accompagner au cours des 25 prochaines minutes, nous aurons comme invité Monsieur Jean Ping depuis le Gabon. Monsieur Jean Ping est diplomate, homme politique gabonais et surtout ancien président de la Commission de l'Union africaine, fonction qu'il a occupée du 28 avril 2008 au 15 octobre 2012, une période qui correspond donc à la chute du colonel Kadhafi. Monsieur Ping, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci. Voilà. C'est un honneur de vous avoir dans cette émission de l'Amérique et vous. Restez en ligne, on revient vers vous le temps d'accueillir nos autres invités. Autre invité donc, Monsieur Venant Bois, depuis le Canada. Monsieur Venant Bois est journaliste et directeur de l'Observatoire africain du Canada. Il a travaillé comme rapporteur de la mission d'évaluation des effets de l'embargo de l'ONU sur les populations libyennes. C'était en 1995. Monsieur Bois, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci. Bonsoir à vos auditeurs.
Voilà, donc vous restez avec nous. Nous devrions avoir également Monsieur Abdelaziz Moundi depuis Paris. Abdelaziz Moundi est journaliste et consultant en relations internationales, basé à Paris donc. Monsieur Moundi, bonsoir.
Bonsoir, Lyndon.
Merci pour votre disponibilité. Eh bien, on va commencer tout de suite dans cette émission. Quel commentaire faites-vous sur ce mea culpa du président Barack Obama sur la gestion de la situation en Libye? Je vais commencer par M. Ping.
Écoutez, je crois que nous avons suffisamment prévenu, suffisamment discuté avec les puissances occidentales, européennes, américaines, les Nations Unies, sur les erreurs qui, selon nous, ils commettaient en essayant d'appliquer de cette manière-là la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous pensions que, bien sûr, la force n'est jamais exclue, mais elle ne devait intervenir que dans les circonstances ultimes. Lorsqu'on a tout essayé, là, on commençait par l'utilisation brutale de la force. On ne nous écoutait pas. Nous qui avions l'habitude de régler de pareilles situations, c'était notre continent. Nous avions l'expérience de la Somalie. Nous avions plusieurs expériences de ce type vécues. Et nous disions à nos amis, attention, attention, attention. On ne nous a pas écoutés. Et ce qui est arrivé, est arrivé.
On va parler beaucoup de votre rôle dans cette situation, Monsieur Ping. Monsieur Moundé, votre commentaire du mea culpa du président Barack Obama.
J'allais dire qu'il vient à la fois trop tard, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard, pour deux raisons simples. En France, on a constaté que, effectivement, ce mea culpa avait commencé à poindre, vraiment à pointiller, puisqu'il y a un certain nombre d'officiers français des services spéciaux, ceux qui avaient rencontré le président Sarkozy avec le Conseil national de transition, certains pontes du Conseil national de transition, qu'il avait rencontré cornaqué par Bernard-Henri Lévy. Il y a eu un certain nombre d'exactions qui ont amené effectivement les services français à dire que l'opération était peut-être, un succès sur le plan militaire, puisque le colonel Kadhafi a malheureusement été tué, et quand je le dis, c'est avec les tripes d'un Africain et peut-être pas le spécialiste, mais surtout le fait que cette opération a été le déclencheur d'un véritable désastre, d'une véritable prolifération de matériel militaire, de djihadistes, d'une déstabilisation jamais vue de ce pays qu'est la Libye, et puis aussi d'un certain nombre de métastases en termes d'effets dominos sur le continent. Donc vous avez en France déjà ce mea culpa qui a commencé à être fait, parce qu'il y a un ouvrage qui a été publié qui s'appelle « Mort pour la France-Afrique ». C'est tout simplement un ex-agent de la DGSE dont les services, le contre-espionnage français, qui faisait un plaidoyer effectivement contre la mission qui avait été décidée par le président Sarkozy et qui a conduit à l'assassinat d'un de ses collègues effectivement qui travaillait pour le Conseil national de transition libyen et à la fois également pour la Jamaïa arabe libyenne. Vous savez, tous ces réseaux-là qui avaient été impliqués dans cette machination ont été aujourd'hui ceux qui ont révélé le poteau rose en précédant le président Obama dans son mea culpa.
D'accord. Merci Abdelaziz Moundi. On va prendre la réaction de Venant Bois. Venant Bois, votre réaction sur le mea culpa du président Obama?
D'abord, moi, je me réjouis que M. Jean Ping soit avec nous et qu'il éclaire encore une fois vos auditeurs, parce que notre objectif à l'Observatoire africain du Canada, c'est justement que les gens soient assez bien informés des enjeux en Afrique. Et donc, je me souviens que M. Jean Ping, à l'époque, avait boudé une réunion à Paris. Et il disait que l'Afrique n'a pas envie d'aller là-bas pour servir le café uniquement. Et moi, je dis que la réaction de M. Barack Obama n'est pas une réaction vraie. Ils savaient bien ce qui allait se passer. Les regrets aujourd'hui, je ne pense pas, moi je ne les prends pas avec, je ne crois pas qu'ils soient sincères, parce qu'il y a comme une sorte d'arrogance des puissances vis-à-vis de l'Afrique quand il s'agit de traiter des problèmes de l'Afrique, qui fait que très souvent on n'écoute pas les voix de l'Afrique. Et pourtant, les Africains sont bien imprégnés de leurs problèmes, ils comprennent les enjeux. Je crois que la faute qui de l'Afrique, c'est peut-être de ne pas avoir un organisme assez puissant. L'Union africaine, qui reçoit des financements de l'étranger, je crois, n'avait pas assez d'énergie ni assez de puissance pour se faire entendre à l'époque.
On a la chance donc d'avoir M. Jean Ping. Monsieur Ping, comment avez-vous vécu les événements qui ont conduit à la mort du colonel Kadhafi et quel était le plan de sortie des crises de l'Union africaine au moment des faits?
Écoutez, nous avons vécu ce problème avec beaucoup de douleur. On méprisait l'Union africaine, on ne voulait pas écouter la voix de l'Afrique. Et malgré toutes nos mises en garde, rien ici. Nous avons constaté que la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, l'application de cette résolution revenait simplement à se débarrasser d'un homme, Kadhafi. Alors que nous, à l'Union africaine, nous avons un plan en 5 points qui visait à éradiquer tout un système et à transformer la Libye en un pays démocratique, sans nécessairement continuer à faire couler le sang. Vous voyez, notre proposition, hormis les questions humanitaires, était basée sur 3 grands points. Le premier concernait un cessez-le-feu et une cessation immédiate des hostilités. Le second était la mise en place d'un dialogue pendant une période de transition consensuelle pour transformer la Libye en une démocratie. Une période consensuelle. Et je dis bien consensuelle parce que ça veut dire sans Kadhafi. Et le troisième point concernait l'instauration de ce système démocratique couronné par des décisions, des élections libres sous supervision internationale. C'était cela l'objectif de la transition. L'Occident voulait simplement changer un homme, Kadhafi. Et lorsque on leur demandait, vous croyez que la disparition de Kadhafi pouvait transformer brutalement la Libye en une démocratie moderne et éradiquer tous les maux que nous avons connus dans ce pays-là, ils ne fournissaient pas une réponse. Nous leur disions des choses simples. En Afrique, nous avons la Somalie. Nous avons la Somalie. Abandonnée depuis 20 ans par tout ce qui avait créé le désordre en Somalie. Et c'est l'Afrique seule, sans moyens, avec une armée insuffisante, qui était chargée de régler le problème somalien, seule, abandonnée de tous. Et maintenant, sans tenir compte des problèmes que nous avons, que vous avez créés et que nous devons résoudre, vous voilà en train d'ouvrir un nouveau front en Libye. Et nous leur disions que ça va se traduire, comme en Somalie, par non seulement la partition de la Libye. La Libye était composée de 3 groupes. La Tripolitaine, le Faisan et la partie de Benghazi.
Okay.
Ces 3 parties allaient s'entre-déchirer.
Tout à fait.
Et la Libye allait se casser en 3.
Exactement, c'est ce qu'on constate en ce moment. On reste en ligne, on va prendre une réaction au téléphone. Allô, bonsoir. Nanti, bonsoir.
Ah, bonsoir, monsieur.
Oui, on vous écoute. Votre réaction?
Oui. À mon avis, je pense que l'Afrique est un continent comme pour tout d'autres continents. Et si les États-Unis restent aujourd'hui une grande puissance et qu'elle devrait réagir en tant que grande puissance, elle devrait d'abord consulter les enfants
de l'Afrique.
Africains. Parce que pas seulement contacter les chefs des États africains, mais en fait contacter d'abord les enfants africains. Parce que vous voyez Kadhafi à son temps, il a une grande influence sur le plan économique en Afrique, bien sûr. Mais
voilà.
De telles décisions comme ça ne pouvaient pas venir comme ça à la hâte et puis résoudre comme ça les choses d'une
de
manière
voilà.
tranchée.
On a bien compris. Abdelaziz Moundé, aujourd'hui les États-Unis reconnaissent à travers le président Obama qu'ils ont échoué en Libye. Est-ce que c'est le même sentiment d'échec en France quand on sait que la France et notamment Nicolas Sarkozy avaient fait du départ de Kadhafi une affaire personnelle?
Oui, une affaire personnelle. Vous savez, il y a des enjeux en France aujourd'hui. Il y a deux personnalités qui étaient impliquées à l'époque. C'est Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, comme ministre des Affaires étrangères, qui, Jean Ping, je parle effectivement sous son regard, son écoute attentive, était celui qui a mené une sorte de bataille diplomatique, de lobbying diplomatique pour que, à la fois, les résolutions 1970 et les 1973 puissent avoir une application décisive sur le terrain, c'est-à-dire mener à une intervention militaire. Il est difficile pour eux d'accepter qu'il s'agissait d'un échec. Pour ces deux personnalités politiques qui ont un enjeu immédiat, c'est la primaire de droite et dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc on ne peut pas s'attendre de la part de ces deux acteurs à une objectivité vis-à-vis justement des conséquences pernicieuses, néfastes, qu'on ne décrira pas ici en l'espace de ce programme
tout
de l'intervention à Libye. Mais en revanche, dans l'opinion française, dans une multitude de débats à la télévision, il y a eu ce travail à la fois de décryptage, de critique, de déconstruction de tout ce qui avait été vendu, de travail de propagande. Vous savez, une opération militaire ne se fait pas sans propagande.
Tout à fait.
Qui était vendu à l'opinion française comme étant une intervention sous prétexte d'instaurer de protéger les populations et d'instaurer la démocratie en Libye.
Alors,
c'était tout simplement une opération de règlement de compte vis-à-vis du colonel Kadhafi.
Justement, avant cette guerre-là, venant Bois en 1995, vous avez travaillé comme rapporteur de la mission d'évaluation des effets de l'embargo de l'ONU sur les populations libyennes, on l'a dit. À quoi ressemblait la Libye de cette époque-là?
Ben, disons que c'était la Libye prospère, la Libye qui vivait dans la paix. Personnellement, en venant d'Afrique noire, j'étais fasciné. Et il n'y avait que les comportements des gens dans la rue qui me laissaient penser que je suis vraiment en Afrique. Mais par exemple, il y avait des hôpitaux un peu partout et il y avait deux grands hôpitaux de référence à Tripoli à l'époque, l'hôpital de Tojourna qui était un hôpital de cardiologie et il y avait l'hôpital l'ophtalmologique aussi. Donc des malades, ils venaient de partout
voilà.
pour se soigner. Mais je voudrais aussi vous dire que pendant 40 ans, la Libye a été un pays à forte immigration de travail. Des pays comme le Niger, le Soudan, le Tchad, le Maroc, le Cameroun, l'Égypte, le Mali, le Nigeria et le Ghana, ils avaient leurs ressortissants là-bas.
Tout à fait.
Et après la chute de Kadhafi, on a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont rentrées et
alors.
Par pays. Et
alors, monsieur Ping, une fois que vous avez su ou que vous êtes rendu compte que votre voix n'était pas ou ne sera pas écoutée comme vous le souhaitiez, comment avez-vous réagi? Comment ça se passait dans les coulisses entre vous, leaders africains?
Écoutez, j'ai fait le tour des capitales européennes, américaines et même ailleurs. J'ai été à Washington, comme vous savez, plusieurs fois.
Oui, on s'est vu à Washington à l'époque.
Oui. J'ai été très bien reçu et je crois même que les Américains comprenaient beaucoup mieux que les autres les enjeux. Mmh. Ils percevaient les risques beaucoup mieux que les autres. Il y a également la chancelière Angela Merkel qui, elle, était opposée à la résolution 1973, totalement opposée. Et je suis allé la voir à cette époque, nous étions parfaitement en accord sur les risques encourus, sur ce qui allait arriver. Ailleurs, l'Italie a commencé à nous appuyer, puis, pour des raisons de disputes pétrolières, l'Italie a changé d'avis. Vous voyez que le Royaume-Uni, c'était comme les autres. Il s'agissait d'une opération de vengeance, de régler des comptes à un homme, Kadhafi, et ce n'est pas ça le plus important. C'était la Libye, c'était les Libyens, c'était le problème qui en résultait, c'était le Mali. Nous savions, nous avions averti que les quantités d'armes qui étaient parachutées, versées à tous les conglomérats du Conseil national de transition, qui n'étaient pas, qui étaient composés de djihadistes, de démocrates, de monarchistes, un conglomérat
qui n'avait qu'un seul objectif, se débarrasser de la Libye.
Ce qui a été.
Et après.
Ce qui a été fait.
Quand vous serez débarrassé de la Libye, que deviendra le Mali? Que deviendra le Maghreb? Avec toute cette quantité d'armes qui ont été parachutées ici et là aux mains des gens qui...
Et on voit bien les conséquences aujourd'hui avec des attaques aussi bien en Libye qu'au Mali.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Je vais prendre quelques réactions d'un auditeur, Ibrahim à Conakry. Ibrahim, bonsoir.
Et bonsoir, monsieur.
Oui, en quelques secondes, votre réaction.
Si vous voyez aujourd'hui Barack Obama, après tout ce qu'ils ont manigancé contre la Libye, qui revient aujourd'hui sur ses propos aussi, moi je dirais qu'il n'a pas vu ses intérêts comme prévu. C'est pourquoi dans mes commentaires, je vous ai dit qu'il est conforme aujourd'hui dans les soleils des indépendants d'Amadou Kourouma. Donc moi je dirais aujourd'hui que l'Occident n'aide pas l'Afrique. Comme réellement ils avaient vu, réellement Kadhafi c'était une personne qui était déterminée pour le continent africain. J'ai même si un documentaire soi-disant les raisons de l'assassinat de Kadhafi. Ils disent là-bas que Kadhafi avait lancé beaucoup de satellites en Afrique ici pour aider le continent à travers l'Internet, pour ne pas que l'Occident continue toujours à espionner l'Afrique.
Voilà.
Donc vu tout cela, bon, Barack Obama, ils se sont dit, bon, il faut. Parce que vu aussi la campagne de Sarkozy, donc tout cela, Kadhafi avait commencé d'annoncer certains commentaires.
Justement.
Donc, ils se sont donné la main pour enlever un guide comme ça.
Merci Ibrahim.
Pour les représentants de l'Afrique.
Merci Ibrahim. Quelques réactions de Facebook. Celle-ci est de Martial Médéon. Il dit la destruction de la Libye a des conséquences incalculables pour l'Afrique à cause de ce qu'ils ont fait en Libye. Toute l'Afrique est menacée par les terroristes. Les armes envahissent le continent avec son lot de massacres. Sarkozy et lui ont décrit notre continent aujourd'hui. Il parle de ça comme d'un simple accident de circulation routière. Alors, Abdelaziz Moundé, à partir du milieu des années 90, Muammar Kadhafi a quand même œuvré à ce que son pays revienne sur la scène internationale. Était-ce une erreur de sa part?
Non, c'était pas une erreur. Vous savez, la vie internationale, elle est faite d'aller-retour, elle est faite de situations de compromis, elle est aussi faite, et c'est ça le rôle de la diplomatie, elle est faite de négociations, elle est faite aussi de contacts qui peuvent être fructueux, comme dans le cas, effectivement, du retour de Muammar Kadhafi sur la scène internationale, après, effectivement, les exactions qu'on lui a reconnues, les attentats de Lockerbie. Il a payé son écho, il a versé la dîme qui lui avait été exigée.
Justement.
Il a été un des financiers les plus importants d'un certain nombre de programmes, que ce soit en Europe ou en Afrique.
Alors,
il y avait une normalisation, si je veux dire, des relations
avec
la
communauté
internationale.
Je voudrais relancer Monsieur Ping. Monsieur Ping, une fois que Muammar Kadhafi avait déjà renoncé à son programme d'armement nucléaire, était-il toujours un danger pour la communauté internationale pour qu'on en arrive à lui ôter la vie?
Écoutez, Kadhafi, semble-t-il, avait totalement renoué avec l'Occident. Il a commis même peut-être l'erreur de faire en sorte que tous ses services secrets collaborent avec les services secrets occidentaux. Ce qui a amené, dès le début de la guerre, des gens comme son chef de la sécurité, devenu ministre des Affaires étrangères, tout de suite a déserté et allé à Londres. Donc, il ne pouvait plus se protéger. Alors, il avait investi énormément en Occident et je crois qu'il n'a pas prévu que la vengeance était toujours là, qu'il n'était toujours pas aimé et que malgré son mea culpa, malgré tout ce qu'il a fait, il y avait les reproches qu'on continuait à faire, notamment l'aide qu'il fournissait à l'Afrique noire et son caractère anticolonial, ce qui concerne les pays africains.
Tout à fait.
Tout ceci lui a coûté.
Lui a coûté sa vie. Alors, on tire à la fin de cette émission le temps de deux réactions sur Facebook. Celle de Théo Tebos qui dit que ces grandes puissances arrêtent de se foutre de nous. De quel suivi M. Obama veut nous parler? Il allume le feu et après il vient jouer aux pompiers. On a celle de Brice Mbouzou qui dit la terreur que connaît l'Afrique en général et la Libye en particulier est la faute des États-Unis qui se prennent pour le gendarme du monde. Cette erreur, nous ne lui pardonnerons jamais. Il n'a pas à demander d'excuses parce qu'il ne réparera pas ce qui est arrivé. Alors, on va faire un dernier tour de table avec nos invités et la question, la voici. Aujourd'hui, la Libye a du mal à retrouver la stabilité. Selon vous, pour ramener l'ordre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais commencer par Monsieur Mboua.
Œuvre à cette prolifération des armes sur la bande sahélo-saharienne aujourd'hui. Mais pour remédier au problème de la Libye, je crois qu'il faut impliquer l'Afrique. Il faut que les pays de l'Union africaine, il faut que l'Union africaine prenne en charge le dossier et que les autres pays, les puissances occidentales collaborent et mettent sur pied ou acceptent un plan que les Africains proposent.
Voilà. Monsieur Abdelaziz Moundé, que faut-il faire pour amener l'ordre aujourd'hui en Libye?
Alors, il y a deux choses. Il y a la voie diplomatique, une voie diplomatique et une solution politique. La voie diplomatique, c'est l'implication de l'Union africaine. Il faudrait vraiment renforcer les capacités de l'Union africaine pour que nous puissions, sur le plan militaire, dans le cadre de la prévention, de la gestion, de la résolution des crises, être assez autonome. Je rappelle que les grands principes de l'art militaire sont simples. Concentration de l'effort, liberté d'action, économie de moyens. Nous n'avons pas de liberté d'action parce que nous ne disposons pas de moyens suffisants, nous ne disposons pas aussi d'une concertation, nous n'avons pas un consensus africain sur la question. Deuxièmement, sur le plan politique, il faudrait également que l'Union africaine, que les pays africains puissent accompagner le nouveau gouvernement devait être déjà mis en place, malgré les réticences des uns et des autres, à pouvoir s'établir. Parce qu'il faudrait absolument que cette situation soit stabilisée pour qu'on puisse espérer des lendemains tout au moins calmes.
D'accord, merci. Merci Abdelaziz. Merci Abdelaziz. À tout seigneur, à tout honneur, on va finir par M. Ping. Que faut-il pour ramener l'ordre aujourd'hui en Libye?
Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire ceci. Je crois que le jugement que j'ai entendu sur Barack Obama est un peu sévère. Pourquoi? Barack Obama avait adopté une stratégie de basculement vers l'Asie Pacifique et de repli à cause des problèmes internes de repli sur l'Amérique. Il avait donc donné le sentiment d'abandonner l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud et de laisser les problèmes africains aux Européens.
Merci pour votre disposition et fini cette émission de l'Amérique et vous. On vous retrouve sur VOA Afrique pour d'autres émissions. Merci, bonsoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.